du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean pour le deuxième dimanche ordinaire. Le lendemain, Jean regarde Jésus venir à lui. Il dit :
Voici l'agneau de Dieu, celui qui prend sur lui et enlève le péché du monde. C'est de lui que moi j'ai dit : À ma suite, il vient un homme qui est passé devant moi, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël que moi je suis venu baptiser dans l'eau.
Et Jean témoigne par ces paroles.
J'ai contemplé l'Esprit qui descendait du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a donné mission de baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit de sainteté. Et moi, je vois et témoigne, que celui-ci est le Fils, l'élu de Dieu. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Peut-être que certains seront surpris de nous voir aujourd'hui plongés dans le récit évangélique de Jean, puisque nous sommes dans l'année A du cycle liturgique, une année qui est normalement consacrée à Matthieu. Mais, ça et là, au cours des trois années liturgiques qui chacune prennent un synoptique, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, on a inséré des passages du récit de Jean.
Où se situe notre texte dans le récit johannique?
Eh bien, le premier chapitre de Jean se déroule d'une manière littéraire, sur une semaine. Après le prologue, qui est une sorte de cantique liturgique, il y aura un triple témoignage de Jean sur Jésus. Le premier jour, Jean va se situer par rapport à Jésus devant les envoyés de Jérusalem. « Moi, je suis, dit-il, la voix qui prépare la route à quelqu'un qui se tient parmi vous, mais que vous ne connaissez pas. » Le second jour, Jean parle de Jésus qui vient à lui, et il témoigne de ce qu'il a contemplé lors du baptême de Jésus. Et c'est notre texte. Le troisième jour, Jean va engager deux de ses disciples à suivre désormais Jésus. Et le quatrième jour, eh bien, Jésus va partir pour la Galilée, qui sera son premier territoire de mission. Et trois jours après, c'est-à-dire le septième jour, va se situer le repas de noces de Cana, où Jésus accomplit le premier des signes qui vont manifester sa gloire. Le premier chapitre de Jean se déroule donc sur une semaine, dont le septième jour va manifester la véritable identité de Jésus.
Notre texte est donc celui du second jour. En quoi consiste le témoignage de Jean?
Eh bien, au verset 26, qui précède notre texte d'aujourd'hui, Jean déclare
« Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. »
Jean s'adresse aux prêtres et aux lévites qui sont venus de Jérusalem pour l'interroger. Ces prêtres et ces lévites font partie de l'élite religieuse du peuple et ils sont membres, semble-t-il, du mouvement pharisien. Jean va dire par deux fois que lui-même ne connaît pas cet homme, mais qu'il a eu mission de le révéler à Israël. Peut-être, on peut se poser cette question, que l'évangéliste veut par cette insistance que nous, les lecteurs de l'Évangile à travers les siècles, eh bien nous nous posions nous aussi cette question. Qui est-il, celui-là, que nous ne connaissons pas?
Comment comprendre cette expression qui peut nous paraître obscure, celui qu'on ne connaît pas?
Eh bien, cela fait très probablement écho à une tradition juive qui voulait que le Messie vive un certain temps caché, inconnu, avant qu'il se fasse reconnaître, et cela jusqu'au jour où un prophète viendrait le consacrer comme Messie. On retrouve dans un écrit de Justin qui s'appelle le Dialogue de Tryphon, un texte qui explique cela.
Le Messie, à supposer qu'il soit né et qu'il existe quelque part, c'est un inconnu. Il ne se connaît même pas lui-même. Il n'a aucune puissance. Tant qu'il y n'est pas venu loindre et le manifester à tous.
Et on trouvera d'ailleurs dans le récit même de Jean, au chapitre 7, au verset 27, un écho de cette croyance. Les gens s'interrogent et se disputent pour savoir si Jésus est vraiment le Messie.
Certains disent, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est.
Alors comment se fait-il que Jean puisse même dire qu'il ne connaît pas ce Messie? Pourtant, Jean est le cousin de Jésus. Et certains, c'est une hypothèse, disent que Jésus a même été le disciple de Jean pendant quelque temps. Alors, il s'appuie pour dire cela sur les paroles de Jean qui désignent Jésus comme celui qui vient derrière lui. C'est en effet une expression qui ne veut pas dire simplement quelqu'un qui est plus jeune ou qui va succéder à un autre. Venir derrière quelqu'un, c'est marcher à sa suite, et ce sont des expressions qu'on utilise pour dire le fait d'être disciple d'un maître. En effet, une des manières d'enseigner, c'était la marche. Le maître marche devant et les disciples suivent. On trouve un écho de cela encore dans un mot français comme « acolyte » qui vient d'un verbe grec qui signifie « accompagner, suivre, et qu'on emploie pour dire être disciple. Donc, le « je ne le connaissais pas » que Jean va dire par deux fois ne peut pas vouloir dire qu'il n'a jamais vu Jésus, mais cela signifie qu'il va le découvrir lui aussi comme Messie. On peut peut-être mieux comprendre à la lumière de cette tradition le long silence de la vie cachée de Jésus. Eh bien, Jean a reçu de Dieu la mission de faire sortir Jésus de son anonymat et de le manifester comme Messie à Israël.
Comment se fera cette découverte du Messie?
Eh bien, cela va se faire par le signe que Dieu a donné à Jean.
Celui qui m'a donné mission de baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, « Sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit de sainteté. »
Alors, baptiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire plonger, on immerge le corps nu dans l'eau d'un cours d'eau ou d'une piscine sacrée. Pourquoi? Eh bien, parce que l'eau est à la fois le symbole de la vie et de la pureté. On s'engage par le baptême à vivre en fils et en fille de Dieu en pratiquant la règle de vie de Dieu qui est la Torah. Mais ce récit de Jean nous invite à faire la distinction entre le baptême donné par Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. Moi, je baptise dans l'eau, dit Jean, mais c'est lui qui baptise dans l'Esprit de sainteté.
Quelle différence y a-t-il entre les baptêmes de Jean et de Jésus?
Eh bien, on pourrait dire qu'il y a la différence entre une démarche humaine et puis une démarche où c'est Dieu qui vient vivre avec nous. La démarche humaine, eh bien, c'est celle de ce baptême où le baptisé s'engage à convertir sa façon de vivre. Mais on sait bien que l'être humain est souvent fragile et infidèle. S'engager à vivre selon une règle, c'est bien, mais il faut encore avoir la force intérieure pour mettre cette règle en application. Depuis des siècles, les prophètes d'Israël ont interpellé Dieu pour qu'il donne son esprit, comme cette force intérieure qui va vivre, qui va permettre de vivre avec fidélité à ce texte de la Torah. Écoutons le prophète Jérémie.
Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leurs êtres. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, en disant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands. »
Et écoutons aussi un autre texte, celui d'Ézéchiel, qui apporte une espérance semblable.
« Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos fautes et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes directives, garder et pratiquer mes coutumes. »
Voilà, eh bien le baptême de Jésus, c'est cela. Il va donner un cœur nouveau parce qu'il va mettre en nous un esprit nouveau. Il va donner l'esprit du Dieu très saint. Il va permettre à chaque baptisé de vivre avec les énergies même de Dieu, les énergies de l'amour de Dieu. Et c'est cela qui va lui permettre vraiment de vivre les paroles qui, comme le dit Matthieu plus tard, comme le dira Matthieu plus tard, font marcher dans la voie du bonheur.
Mais celui qui donne l'Esprit doit être en lui-même habité.
Oui, il doit être habité par l'Esprit. Nous trouvons déjà dans le livre des Nombres un épisode qui illustre cela. Il s'agit d'un épisode où Moïse a demandé à Dieu de lui donner des aides pour diriger le peuple. Alors Dieu lui demande de rassembler 70 des anciens.
« Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. » Quand l'Esprit reposa sur eux, ils parlèrent en prophète de Dieu.
Et Moïse va s'écrier,
« Ah, puisse tout le peuple être prophète, le Seigneur Dieu leur donnant son esprit. »
On voit bien que le don de l'esprit est lié à la fonction de prophète. Et de même que Moïse avait en lui cet esprit de Dieu pour le transmettre aux 70 anciens, eh bien de même Jésus reçoit l'esprit pour être le nouveau Moïse. Il sera ce prophète qui avait été annoncé par Dieu à Moïse dans le livre du Deutéronome au chapitre 18.
C'est un prophète comme toi que je le susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche.
Et en effet, le judaïsme au long des siècles a compris ce texte du Deutéronome comme la promesse divine d'envoyer un prophète exceptionnel et un prophète qu'on va identifier parfois avec le Messie. En Jésus, l'Esprit de Dieu demeure pour que Jésus le communique. Et Dieu seul peut insuffler le souffle spirituel de sainteté et d'amour dont l'être humain a besoin pour vivre la règle de vie, une règle qui fait devenir fils et fille de Dieu parce que l'on vit du même esprit que le Père. Je pense qu'il est important de voir qu'à travers ces textes, on ne sépare jamais l'esprit et la parole. La parole est morte sans l'esprit qui la fait comprendre et qui donne la force de la vivre. Et l'esprit est une force aveugle s'il n'est pas la lumière qui éclaire la parole.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui prend sur lui et enlève le péché du monde. Comment comprendre ce titre donné à Jésus?
Mais avant de regarder le sens de ce titre de agneau, demandons-nous d'abord ce que signifie enlever le péché du monde. On a traduit d'ailleurs ici celui qui prend sur lui et enlève le péché du monde parce que le verbe grec qui est là signifie à la fois prendre sur soi, mais aussi enlever, faire disparaître. Notons aussi qu'on parle ici du péché au singulier, non pas des péchés. Eh bien, dans le récit évangélique de Jean, quand on parle du péché, c'est essentiellement le refus de reconnaître l'enseignement de Jésus comme un enseignement qui vient de Dieu. Écoutons Jésus dire ce qu'il pense de ceux qui le haïssent et le rejettent.
Si je n'étais pas venu, je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché.
Le péché, c'est donc de ne pas vivre en communion avec Dieu parce qu'on rejette sa parole et son esprit. Et si Jésus va faire disparaître, va enlever le péché, eh bien c'est dans la mesure où il est le porte-parole du Père et le dispensateur de son esprit. Et non seulement Jésus donc va faire connaître la parole, la pensée de Dieu, mais il va donner la force de vivre en accord, en communion avec Dieu. Relisons la première lettre de saint Jean qui exprime bien cette idée.
Celui qui demeure en Jésus ne pèche pas. Tout être qui a été engendré de Dieu ne commet pas de péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher car il a été engendré de Dieu.
Eh bien, cette semence qui engendre l'humain à la vie divine, c'est la parole. Et on a là un écho de ce que dit déjà le prologue de Jean.
À ceux qui reçoivent la parole, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Mais revenons à l'image de l'agneau de Dieu. Il y a bien sûr plusieurs passages de la Bible avec lesquels on va pouvoir faire des rapprochements. Mais privilégions, si vous voulez, ce matin, le chant du serviteur en Isaïe, car les textes du baptême de Jésus utilisent souvent cette référence. Dans le récit de Jean, le Baptiste va terminer son témoignage en disant
« Et moi, je vois et témoigne que celui-ci est le Fils, l'élu de Dieu. »
En Matthieu, en Marc, la voix divine proclame au baptême
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
Eh bien, on voit que ces paroles font référence au texte d'Isaïe, au chapitre 42.
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit et il présentera mes directives aux nations. »
Voilà, on retrouve les mêmes termes de « celui qu'il m'a plu de choisir »,« celui en qui mon âme se complaît », le terme aussi d'élu. Dans ce premier chant du serviteur, on voit que la mission du serviteur, c'est de faire connaître la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il est appelé non seulement à faire connaître la parole de Dieu à Israël, mais aussi aux autres peuples. Il présentera mes directives aux nations. Les nations, c'est la façon dont la Bible traduit, appelle traditionnellement les peuples païens. Non seulement donc Jésus va enlever le péché d'Israël, c'est-à-dire l'ignorance et le refus de la parole divine, mais aussi le péché du monde entier. Et le chant se poursuit d'ailleurs de cette façon.
Moi, le Seigneur Dieu, je t'ai appelé, je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance de mon peuple et la lumière des nations.
Mais, et c'est là ce qui est important, pour témoigner de la parole divine, ce serviteur ne vient pas avec puissance et force. Le chant va au contraire le décrire comme quelqu'un d'humble et de pacifique.
Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa clameur dans la rue. Il ne brise pas le roseau ployé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente la Torah.
Il y a une constante. Celui qui annonce la parole de Dieu ne peut pas le faire par la force, mais seulement par l'amour, car Dieu n'est qu'amour. Et déjà dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, on voyait Dieu supporter le péché, c'est-à-dire le refus de son amour, jusqu'à ce que l'être humain s'ouvre à sa grâce et à son pardon. Écoutons ce que Dieu dit à Moïse.
Le Seigneur Dieu passa devant Moïse et cria, « Je suis le Seigneur Dieu, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché. »
Eh bien, le quatrième chant du serviteur va joindre encore plus explicitement la figure du serviteur et de quelqu'un d'humble qui est l'agneau. Écoutons ce texte.
Comme un surgeon, il a grandi. Comme une racine dans le désert, sans éclat ni beauté, sans aucune apparence. Homme de la douleur, connu de la souffrance.
C'est nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Sur lui sont retombés les méfaits de nous tous. Maltraité, humilié, il n'ouvre pas la bouche.
Il est comme un agneau qu'on traîne à l'abattage, comme brebis qui se tait devant ceux qui l'attendent. Car il s'est dépouillé allant jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter au rang des malfaiteurs.
Il a porté le péché des peuples, s'est interposé pour tous les pécheurs. Juste et souffrant, mon serviteur justifiera des multitudes, broyé par la souffrance, ô Dieu, tu l'offres en sacrifice. Eh bien, voilà comment la figure du serviteur se mêle à celle de l'agneau. D'ailleurs, en araméen, qui est la langue de Jésus, le même mot talia signifie agneau et serviteur. L'agneau se tait, comme le serviteur qui, au début de ce texte du serviteur souffrant d'Isaïe, comme le serviteur qui ne crie pas et qui n'élève pas la voix. L'agneau de Dieu est un serviteur de Dieu amour qui lutte désarmé contre le mal. Et ainsi Jésus va supporter lui aussi le refus de Dieu amour, il va souffrir de ce refus jusqu'à livrer sa vie, jusqu'à se livrer à ceux qui refuseront l'amour, et cela dans cette espérance que l'amour pourra convertir le cœur de celui qui le refuse.
Comment cela peut-il se vivre aujourd'hui?
Eh bien, on peut dire que Gandhi lui-même s'est inspiré de l'Évangile. Il disait très souvent que la violence de ton ennemi fonde au feu de ton amour. Oui, contre le mal sous toutes ses formes, la jalousie, la haine, la domination, la Bible et Jésus nous disent qu'il n'y a qu'une seule force capable de vaincre. Et cette force est celle de la bonté, celle d'un don parfait d'amour, celle du pardon. La justice ne suffit pas à vaincre le mal. Pour vaincre le mal, il faut aller jusqu'au pardon. Le pardon non pas comme la décision de quelqu'un d'oublier ce qui a été fait de mal. Non, le pardon qui est une force de guérison qui vient rejoindre le cœur de celui qui a fait mal, qui a fait le mal, pour pouvoir transformer ce cœur. Le pardon qui est envisagé comme cela n'est pas une attitude de lâcheté ni de faiblesse, comme on se plaît parfois à le dire, en se moquant du petit agneau tondu de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Non, pardonner, c'est au contraire l'acte le plus fort qui soit, c'est un acte divin. Et cette force du pardon ne se trouvait pour nous chrétiens que dans un cœur à cœur avec Jésus dans la prière. L'abbé Pierre, qui était un lutteur infatigable, qui est encore un lutteur infatigable contre tout ce qui dégrade l'être humain, nous indique la route à prendre. Écoutons un passage de son livre « Dieu merci ».
Il n'existe qu'une seule route, et elle est déroutante en apparence, mais elle mène au but, et elle seule est vérité. Chaque jour et toute l'histoire humaine font voir cela d'éclatante évidence pour les regards francs. Et c'est la route de l'agonie d'aimer vers la résurrection. Route de la désillusion qui déchire et dénude et laisse plus libre face au réel absolu. Pour l'enthousiasme du face-à-face avec l'amour réel, absolu, unique, universel. Il n'y a pas d'autre route sûre que celle de cette contradiction, de cet affrontement qu'il faut consentir, qu'il faut vouloir, auquel il faut à tout prix refuser de se dérober. Seul il est fécond que cela se voit ou reste inaperçu.
Dans la liturgie de l'Eucharistie, nous reprenons d'ailleurs ce témoignage du Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais remarquons bien que quand le prêtre dit cela, il présente le pain qui est la parole de Dieu fait homme. Et l'assemblée répond en disant, « Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Est-ce qu'on ne pourrait pas traduire cela de cette manière? « Fais-moi seulement accueillir une parole de toi. » Et je serai guéri de mon mal, qui est justement l'ignorance de ta parole, une ignorance dans laquelle je vis et qui me fait vivre hors de la communion avec toi. Oui, je pense que c'est seulement dans la mesure où notre Eucharistie nous fait découvrir la parole divine, que nous pouvons, nous chrétiens, à notre tour, témoigner comme Jean le Baptiste. Oui, je vois et je témoigne que ce Jésus est bien l'élu, le Fils bien-aimé de Dieu. Quand nous écoutons l'Évangile, seul, à la maison, ou bien dans l'assemblée eucharistique, est-ce que nous sommes bien conscients qu'en cet Évangile habite la parole divine, une parole qui veut se faire vie humaine en nous? Terminons par ce texte de Madeleine Delbrel dans Indivisible Amour.
Le chrétien est chargé, chargé comme on le dit, d'une pile électrique, d'une vie. Cette vie lui est donnée par Dieu pour le monde. Elle est don au monde à travers lui. Le chrétien est responsable d'un message de Dieu, d'un message qui est le programme vital de l'humanité. Aimer Dieu de tout soi-même et chaque humain comme soi-même. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Ou bien utilisez notre numéro de télécopieur 514-256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.